Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick PL, assisté de Pascal Esseric. Émission préenregistrée le 24 février 2016, diffusée mardi 1er mars de 21h30 à 23h. Elle est rediffusée jeudi 3 mars de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, pour m'accompagner ce soir, Pascal Esseric, rédacteur en chef d'Éléments. Bonsoir Pascal.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, ce soir, une émission un peu spéciale, car exceptionnellement, nous n'aurons pas Philippe Christel pour son actualité européenne, mais nous avons le plaisir d'avoir un invité plus que passionnant, en la personne de Gérard Cogniaux, pour son livre « Théologie de la provocation ». Cause et enjeu du principe totalitaire aux éditions Desirt, avec une préface de Michel Onfray. Bonsoir Gérard Cogniaux.
Bonsoir.
Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous présenter à nos auditeurs, Gérard Cogniaux, vous êtes, et puis vous me couperez si je me trompe, vous êtes universitaire de formation, vous connaissez mieux que personne les littératures russes et polonaises, une grande connaissance des avant-gardes, et comme dirait notre ami François Bousquet de la revue Éléments, vous êtes un des rares défricheurs du monde slave à l'université et dans l'édition. Là-dessus, c'est vrai que vous êtes quand même, il y a très peu de la littérature russe, on en parlait la semaine dernière avec François, avant d'arriver à votre livre, la littérature russe, elle est quasiment inconnue en France, quoi.
L'âge d'homme a essayé de combler les lacunes, puisque j'ai collaboré avec l'âge d'homme pendant une quarantaine d'années, aux côtés de Vladimir Dmitrievitch, qui a fondé cette maison, dans l'intention justement de pallier à ces lacunes qui pour lui étaient venant de Serbie, où toute la littérature russe était, on pouvait là, évidemment y accéder dans la langue, mais elle était entièrement traduite en serbe, parce que les petites nations ont le privilège d'avoir un accès justement aux autres cultures que l'on n'a pas dans des cultures dominantes, un peu comme la française. Et donc j'ai beaucoup, dans ma carrière, je dois le dire, j'ai beaucoup souffert d'une sorte d'ostracisme, parce qu'on considérait, moi j'ai été formé en littérature comparée, mon professeur et maître à penser, je dois dire, était René Etiamble, qu'on a oublié aujourd'hui, ouais, mais qui avait une grande place, oui, à l'époque. Etiamble, c'était un grand monsieur, il avait fondé la collection à l'UNESCO, vous savez, de littérature orientale, etc. Enfin, c'était vraiment un grand
connaisseur de la Chine aussi.
Connaisseur de la Chine, connaisseur du Japon, c'était. Et en plus, quelqu'un qui avait une pensée droite et qui défendait aussi la langue française, ce dont on a encore plus besoin aujourd'hui. Et donc j'étais comparatiste et j'ai été ostracisé parce qu'on considérait que les sujets dont je m'occupais, c'est-à-dire les littératures russes et polonaises, étaient au fond des sous-littératures par rapport aux littératures européennes. Je me suis déjà heurté à ce préjugé pendant toute ma carrière et je n'ai pas été reconnu en littérature comparée, alors que tous mes travaux, toutes mes thèses, j'ai fait plusieurs thèses en littérature comparée, et chaque fois je me heurtais à cette objection, et j'ai été en quelque sorte récupéré par les slavisants, grâce à mes publications à l'âge d'homme, qui ne se sont même pas souciés qu'au fond je n'étais pas un russisant, n'est-ce pas ? J'étais pas agrégé de russe, j'avais pas tellement de diplôme de russe, mais j'ai fait carrière ensuite en slavistique, grâce à ma connaissance justement que j'avais acquise sur le terrain. Je crois que c'est très important d'avoir des connaissances sur le terrain. Et je crois que l'une des causes de la crise actuelle, je crois qu'on est dans vraiment une crise des idées qui est extraordinaire, et repose sur l'ignorance absolue dans laquelle on est en Occident par rapport aux pays de l'Est. Je crois que la guerre de Yougoslavie, par exemple, qui a été une monstruosité sur tous les plans, n'est-ce pas ? Mais l'une des sources, c'est l'ignorance.
L'incompréhension
dans laquelle les gens qui ont lancé cette croisade au nom des droits de l'homme, alors que on inverse tout parce qu'on ne sait pas. L'épuration ethnique, par exemple, elle ne s'est pas exercée des Serbes vis-à-vis des Kosovars. C'était au Kosovo, moi quand j'allais là-bas, j'allais tous les ans parce que j'étais à Nancy, j'allais en Serbie par exemple, les Serbes se plaignaient Il se plaignait auprès de Milosevic, quand Milosevic était encore au pouvoir, il l'accusait de ne rien faire pour eux, pour les défendre contre les exactions qu'ils subissaient déjà de Loucheka, de tous ces groupes mafieux. Ce sont des, qui étaient déjà reconnus comme des bandits par la CIA, par les Américains. Et puis quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient les utiliser, ils les ont intronisés et ils s'en sont servis d'eux pour démolir un pays, toujours dans leur but géopolitique, n'est-ce pas, d'expansion et soi-disant d'imposer la démocratie partout, dans le monde, on le sait bien.
Ça, on y reviendra pas, c'est les séries. Voilà.
Oui, vous dites, il faut revenir sur le terrain. Votre terrain à vous, c'était quel était-il ?
Mon terrain, je suis parti en Pologne d'abord. Quand je venais à peine de passer ma licence de lettres modernes, et le hasard a fait que je sois nommé lecteur de français en Pologne. C'était à l'époque de la guerre d'Algérie, et je suis resté 7 années en Pologne, et donc j'avais déjà appris un peu le russe et le polonais aux langues os, mais j'avais une teinture de connaissances. C'était, vous savez, on n'apprend pas tellement les langues dans les écoles,
on n'apprend pas les langues à langues os.
oui, on l'apprend, mais on apprend de manière théorique, on apprend l'histoire, mais on n'apprend pas vraiment la langue. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment entrer dans le pays et pratiquer la langue dans le pays avec les gens. Parce qu'alors, on est confronté à des mentalités qui ne passent pas d'une manière dans les, n'est-ce pas, qui sont souvent travesties. Et donc, moi, j'ai eu cette chance. Je suis arrivé en Pologne. C'était une époque extraordinaire, je dois le dire, parce que c'était à l'époque du dégel, vous savez, après la confrontation entre sous Khrouchtchev et Gomulka. Et la Pologne s'est libérée pendant plusieurs années. Et c'était un régime que j'ai trouvé assez exemplaire, parce que le pays avait gardé ses structures socialistes, qui quand même ne sont pas négligeables, parce que sur le plan matériel, par exemple, on n'avait pas de... Vous voyez, l'État prenait en charge tout le domaine de la vie pratique. Alors, il y avait des lacunes, il y avait une certaine pénurie, mais on arrivait quand même à vivre. Et le but n'était pas non plus la consommation. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est que dans ces pays communistes, le but n'était pas, tant que l'idéologie communiste, qui avait ses défauts, mais qui quand même était une idéologie qui n'était pas axée, vous voyez, sur la, comme aujourd'hui, sur la consommation et le spectacle, et qui avait un but éducatif. Et la culture était assez, disons, extrêmement développée. Et donc j'ai connu la Pologne, où on en a maintenant un témoignage avec ce qui nous reste, les films de Wajda, avec toute la grande pléiade des grands cinéastes polonais, le théâtre avec Grotowski et Cantor. Donc j'ai connu tout ça, vous voyez. Et donc dans le domaine intellectuel, dans le domaine artistique, j'ai assisté à un véritable essor dans ce pays. Alors évidemment, c'était l'intelligentsia, c'était l'élite qui intellectuelle et artistique qui en profitait le plus, il faut bien le dire, plus que le peuple. Mais il y avait quand même une grande liberté, il n'y avait pas de censure pendant plusieurs années. Et puis après, comme les soviétiques savaient très bien faire cela, ils ont su attendre, ils ont fait ça aussi en Tchécoslovaquie, ils ont remis
leur
emprise. Et ensuite, bon, on sait, il y a eu la révolte de Solidarność. Ça, je l'ai pas connu. Mais moi, j'ai connu l'époque de Gomulka. Et je dois dire que la Pologne de cette époque est restée pour moi, dans mon expérience, vraiment une espèce de modèle sur ce plan-là.
Dans sa préface, Michel Onfray, dites-vous, et en vous écoutant, je pense qu'il avait entièrement raison, Gérard Cogniot est à l'Est, il pense à l'Est, il pense vers l'Est. Sa réflexion est libre de la glu de l'Ouest, elle ne colle pas, elle libère, affranchit, aère, élève. Alors, venons donc à l'objet qui nous réunit ce soir, c'est désormais la fameuse théologie de la provocation. C'est quoi exactement ce concept de la théologie de la provocation? Vous la faites naître à la croisée du 19e, 20e siècle, Gérard? C'est ça?
C'est ça. C'est né en fait d'une réflexion, d'une interrogation sur les catastrophes qui se sont abattues sur le monde tout au cours du XXe siècle. Les deux premières catastrophes inaugurales, je dirais, bien sûr, ont été la Première Guerre mondiale et la Révolution d'Octobre. Et effectivement, le fait que ces deux événements se soient enchaînés, parce qu'il n'y aurait pas eu la Révolution d'Octobre, on le sait très bien, s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu cette guerre. Mais en même temps, la Révolution d'Octobre s'est voulu une réponse aussi au nihilisme qui était automatiquement engendré par cette boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale. C'est pas, où les, au nom du patriotisme des nations se sont affrontées d'une manière absolument sanglante, on assistait véritablement à une hécatombe, hein, une hécatombe que, quand on pense à tous les gens, tous ceux qui ont péri là, et qui auraient prématurément, on peut parler de Peggy et de beaucoup d'autres, n'est-ce pas, ça a été une catastrophe. Et ça, j'ai retrouvé cela dans les débats idéologiques, parce que c'est très très frappant que la première phase, si vous voulez, de réaction de beaucoup d'intellectuels et d'artistes en face de l'état du monde qui a été né de cette guerre était une sorte de nihilisme, n'est-ce pas, de table rase, de perte totale de confiance dans des valeurs qui avaient fondé la civilisation occidentale. C'était vraiment une sorte de rejet. On a ça dans le dadaïsme. Moi, j'ai étudié un poète qui était poète futuriste polonais, Alexander Watt, d'ailleurs je vais en parler parce qu'il est important pour mon livre, qui était d'abord tout jeune futuriste, c'est une forme de dadaïsme polonais, si vous voulez, mais c'est-à-dire qui proclamait qu'au fond, on ne pouvait plus croire en rien, n'est-ce pas? C'était le renoncement à toute croyance dans des valeurs qui s'étaient entièrement qui avait été défigurée, qui avait été, n'est-ce pas, qui s'était elle-même sabordée dans ce massacre collectif. Et puis alors est venue la réponse, et la réponse elle est venue évidemment du marxisme, du communisme, et la plupart de ces gens-là qui étaient d'abord au fond, on peut dire politiquement, ils étaient plutôt tentés par l'anarchisme, c'est-à-dire la suppression de tout État, de toute autorité, vous voyez, l'anarchisme, ils étaient presque tous anarchistes. Les futuristes russes étaient anarchistes. Et puis est arrivé le bolchevisme, qui est une forme, on le sait bien, de jacobinisme. Et le bolchevisme s'est imposé par la terreur, mais il s'est imposé aussi par la foi. Les auteurs polonais, qui sont ceux qui ont le mieux décrypté, je crois, cette idéologie communiste, parlaient de nouvelle foi. Et ils étaient convaincus que le communisme n'était pas du tout une religion, enfin une idéologie matérialiste. Elle se prétendait matérialiste, mais elle était, comme l'avait dit, je cite souvent ce mot d'Armand Robin, elle était spirituelle à l'envers. C'était un spiritualisme inversé. Oui, c'était une nouvelle religion. Sinon, on ne comprendrait pas cette folie, n'est-ce pas, ce fanatisme des gens qui étaient prêts à se suicider et à tuer pour la cause qui leur paraissait justement représenter la seule issue, le seul salut pour l'humanité. Et à partir du moment où on adhère à une cause comme cela, que l'on idéalise, que l'on n'est-ce pas, tout est permis. Et donc c'est cela qui m'a amené à réfléchir sur le phénomène du totalitarisme, non pas dans ses formes extérieures, si vous voulez, dans ses formes visibles. Je ne me suis pas intéressé aux statistiques opposant les victimes du goulag aux victimes du nazisme, etc. Ce que font la plupart des historiens d'ailleurs, n'est-ce pas ? Oui, ils s'attachent à des faits, à des statistiques. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans les mentalités, c'est ce qui se passe dans les esprits. Et c'est pour ça que j'ai osé, si on peut dire, parce que je ne suis pas entièrement certain à 100% de la validité, n'est-ce pas, de mes jugements, j'ai un peu édifié cette théorie du tiers inclus, qui considère que dans chaque conscience individuelle, dans un régime qui est justement sous l'emprise d'une idéologie dominante qui prétend détenir la vérité, n'est-ce pas, qui prétend détenir la vérité, à partir du moment où on adhère à cette foi dans la vérité, dans une vérité qui est établie, eh bien, on perd l'esprit critique. On perd, et donc dans le dialogue avec soi-même, je me suis représenté cette situation d'un tiers qui s'incruste dans chaque conscience individuelle, dans le dialogue que l'on entretient avec soi-même, dans la recherche que l'on a de la vérité, aussitôt intervient, si vous voulez, ce tiers inclus, c'est une sorte de personnage que j'ai, c'est presque un personnage de fiction, si vous voulez, et j'en ai trouvé la formulation chez Alexander Watt, dont j'ai parlé, qui a traversé toute cette époque, tout le XXe siècle, et qui l'a raconté dans un livre que j'ai traduit, qui s'appelle Mon siècle, et c'est un livre vraiment pour bien connaître le XXe siècle, je crois que c'est le livre vraiment par excellence, le livre de son expérience à lui. Eh bien, il a écrit que peut-être que je peux citer parce que c'est un peu l'origine, si vous voulez, de ma démonstration. Il a écrit, c'est l'introduction dans Mon siècle. Donc Alexander Watt a défini le communisme comme la socialisation par la désocialisation. C'est l'introduction du tiers. Ce qui veut dire que lorsque vous serez deux à vous rassembler, je serai là entre vous. Cette éducation soviétique apparaît déjà en prison. Cela signifie mon ami codétenu et mon ami par le NKVD, mon frère et mon frère par le NKVD, c'est-à-dire par la police, par le parti, par l'intermédiaire de Staline. Évangélique, lorsque vous serez deux rassemblés, je serai là parmi vous. Donc c'est un travestissement, c'est une parodie de la parole du Christ qui dit à ses apôtres « Je serai partout avec vous ». Où que vous serez, et c'est et effectivement le système communiste a parodié le christianisme. Et il s'est servi aussi, il s'est appuyé en Russie sur cette foi orthodoxe qui était donc absolument pervertie, n'est-ce pas, dépravée, pour obtenir l'adhésion, malgré tout, d'un grand nombre de gens.
Alors vous êtes sur Radio Courtoisie et nous recevons Gérard Cogniaux pour son livre Théologie de la provocation, cause et enjeu du principe totalitaire. Alors effectivement, on parlait du communisme, il y a le nazisme qui arrive juste... Alors en dehors de la comparaison comme vous l'expliquiez, que les historiens font, sur le plan du fond, est-ce que ce sont une autre idéologie qui est proche de la provocation aussi? Est-ce qu'on est dans le même sens que la révolution russe de l'époque de 17.
J'ai dégagé peut-être, d'une manière un peu excessive, je dois l'avouer, une sorte de dénominateur commun des idéologies totalitaires qui consiste à mes yeux justement dans ce tiers inclus. Ce qui fait que chaque système totalitaire se manifeste par cette emprise idéologique sur les esprits qui, évacuant tout esprit critique, tout souci d'une enquête vraiment sur la réalité du monde, substitue à cette réalité une fiction. Et évidemment, le moteur principal, et ce moteur, on le retrouve dans toutes les idéologies, moi j'en ai établi trois qui se succèdent, mais la première, évidemment, il y a une certaine concomitance entre le nazisme et le communisme, ils se sont copiés, c'est vrai, l'un l'autre. On sait très bien qu'il y a eu un effet de contamination, il y avait beaucoup de ressemblances, et ce qu'il y avait de commun, c'était justement cet aveuglement messianique qui entraînait la foi, cette foi dont j'ai parlé, dans un premier cas, dans une humanité qui devait être purifiée d'une race qui était considérée comme malfaisante et qui a empêché justement l'humanité de réaliser son bonheur, n'est-ce pas, et qui était la race juive. Et là, le nazisme a été sans doute le premier à instaurer le bouc émissaire. Le peuple juif est devenu le bouc émissaire qu'il fallait exterminer, on sait ce que cela a donné, mais cela déjà c'était ce qui était peut-être, bon, on peut dire que c'était plus grave, parce que la mort de millions de gens dans des conditions épouvantables, et rien n'est plus grave, mais je pense que c'est ce qui est très intéressant, c'est le mécanisme mental de ceux qui ont été les instruments de cette politique. Cela, on n'en parle presque jamais, n'est-ce pas? Et on n'a pas considéré que cette mentalité a perduré, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette conviction, au fond, qui est fondée sur une exclusion, une discrimination. On exclut une race, on on désigne des boucs émissaires, et donc on se lance dans une sorte de croisade pour les extirper de l'humanité. Et là, j'ai essayé de montrer justement l'évolution qui s'est produite dans la conception de l'ennemi. Il y a d'abord, l'ennemi est un ennemi, je dirais, traditionnel, n'est-ce pas? C'est un ennemi qui est lié à un territoire, à une nation, à une. C'est une lutte pour la suprématie. Mais on ne cherche pas l'extermination de l'ennemi. Il y a eu beaucoup de. La plupart des guerres qui ont eu lieu dans le passé, même si elles étaient extrêmement cruelles, atroces, toujours, les guerres sont toujours atroces, mais le but de ces guerres n'était pas, par exemple, l'extermination du peuple allemand.
Ouais.
Non. Mais là, on est arrivé vraiment. On en est arrivé à la conception, c'est Carl Schmitt a très très bien théorisé cela, quand il parle de l'ennemi absolu. Et quand il dit que, désormais, avec l'apparition de la bombe nucléaire, le danger est tellement grand qu'il faut stigmatiser celui qui peut présenter un risque, n'est-ce pas, de déflagration mondiale, de destruction mondiale, il faut le stigmatiser à la mesure de ce risque. Ce qui explique les croisades fondées absolument sur la diffamation, sur des mensonges, et auxquels les populations croient parce qu'elles sont terrorisées avant tout par le danger qu'on leur présente. C'est ainsi qu'on a pu voir l'adhésion presque unanime en Europe quand on a lancé la guerre contre l'Irak. Sur un mensonge avéré, qui a été reconnu, et en même temps, qui n'a eu aucune conséquence. Aucune. Ce qui me frappe, c'est justement, moi, ce que je me suis intéressé à l'évolution des mentalités, à ce qui se passe dans les esprits. Comment peut-on désormais croire, n'est-ce pas, parce que ce pays se présente comme l'incarnation même de la démocratie, le modèle de la démocratie, la plus grande démocratie du monde, on y croit, d'une manière absolument sans faire appel à notre raison, sans faire appel à notre esprit critique. C'est un phénomène de croyance. Il y a un auteur auquel je me réfère assez souvent, qui est Ortega y Gasset. Et il a très très bien analysé ce phénomène de ce qu'il appelle la croyance collective. Il parle aussi d'un dogme social. Il dit à chaque époque, donc chaque idéologie dominante, et se sert peut provoquer une croyance collective, une adhésion à un dogme social. C'est une attitude dogmatique, parce que justement on ne met pas en question les faits qui sont énoncés, qui sont affirmés, n'est-ce pas? Et c'est très frappant aujourd'hui dans la propagande occidentale, en ce qui concerne le conflit avec la Russie. C'est tout à fait flagrant. On n'a jamais prouvé aucune des accusations qui ont été formulées. Aucune. Ce qui s'est passé en Ukraine, tous les massacres qui ont lieu, la guerre du Donbass, Maïdan, tout a été imputé à la Russie. Sans qu'on se préoccupe jamais d'établir la réalité des faits. On a vu trois ministres des Affaires étrangères adouber un gouvernement qui était issu d'un putsch, n'est-ce pas, qui n'avait rien, par la violence, au mépris des accords signés. Donc il y a même là, on assiste même à une forfaiture permanente, on signe des accords que l'on ne reconnaît pas, dont on ne parle même pas, parce que ils ne présentent plus aucun intérêt à partir du moment où on a désigné le bouc émissaire. Le bouc émissaire recouvre tout. Aussitôt on a la réponse. Moi, quand j'ai parfois des discussions avec beaucoup de collègues qui ne partagent pas mes idées, n'est-ce pas, on me répond « Ah, mais alors, tu es pour Le Pen, tu es pour Poutine », et ça suffit.
Ça suffit.
On pense par slogan. Et une idéologie totalitaire engendre une pensée qui fonctionne par slogan. Qui évacue l'esprit critique.
Oui, parce que dans votre livre, Gérard Cogniaux, je pense que les auditeurs sur le communisme et le nazisme, ils vont être d'accord, mais l'originalité de votre livre, c'est que vous dites il y a un troisième agent provocateur, c'est le mondialiste, il s'est un peu nourri des deux premiers, il est moins palpable, il est plus sophistiqué, la société d'aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque où on pouvait condamner le communisme ou le nazisme. Cette modernité qui a été mise en place, c'est une provocation qui est beaucoup plus sophistiqué qu'à l'époque de 1917.
Tout, Tout à fait. C'est-à-dire que à la fin de la deuxième guerre mondiale, ensuite, la deuxième guerre mondiale a engendré une troisième guerre, au fond, qui a été la guerre froide. Et la grande force, les démocraties étaient victorieuses. La démocratie a été d'abord victorieuse contre le nazisme, pas seule, parce que sans la Russie, qui n'était pas une démocratie au sens occidental du mot, bien entendu, puisque c'était un pays totalitaire. Mais c'est quand même le pays qui a libéré le monde et l'Europe du nazisme.
On l'a un peu évacué.
Et on l'a évacué, puisqu'on le nie aujourd'hui.
Oui, oui.
On le nie d'une manière systématique. Bon, on ne va pas revenir sur des faits connus, vous connaissez tout ça mieux que moi, mais personne d'ailleurs n'en tient compte.
Non.
Pas personne. Quand je parle avec les gens, ils ouvrent de grands yeux quand je leur cite des faits qui sont avérés, que l'on peut constater, qui sont transmis par l'information qui a essentiellement pour principal objet de désinformer, mais qui quand même est obligé tout de même parfois de se référer à quelques réalités, n'est-ce pas, évidentes. Eh bien non, on n'en tient pas compte, c'est évacué. C'est englobé dans cette vision, n'est-ce pas, totalitaire, justement. C'est pour ça, la grande force donc des démocraties, c'est d'avoir vaincu d'abord le nazisme, puis, il faut bien dire, le communisme. Alors encore que, si on examine bien les faits, la chute du mur de Berlin et la politique de Gorbatchev était au fond signifiait un désarmement presque unilatéral, n'est-ce pas? La Russie à ce moment-là a fait une espèce d'amende honorable sur son propre régime, sur son propre système, et était entièrement ouverte à une alliance avec l'Occident. Et c'est l'Occident qui a profité, au contraire, de la situation pour la marginaliser, pour l'étouffer, pour essayer d'ailleurs de la démembrer, parce que c'était un projet de dislocation aux années Yeltsin, en profitant justement de cette adhésion, n'est-ce pas, de ce que j'ai appelé moi le mirage occidental. Donc ce phénomène, si vous voulez, de brouillage des esprits, non seulement il a continué, mais il s'est encore aggravé, il s'est accentué. Et cela m'a mené à parler, évidemment, beaucoup de gens vont s'insurger, j'ai beaucoup d'amis qui considèrent que j'exagère, j'en suis venu à parler d'un troisième système que j'ai appelé de domination, que j'ai appelé le démocratisme totalitaire, parce qu'aujourd'hui, au nom d'une démocratie qui, en réalité, si on analyse véritablement le fonctionnement de cette démocratie dans les pays qui s'en réclament, c'est cela, je crois, le point fort, dans les pays qui s'en réclament, elle n'existe pas. N'est-ce pas ? Ce qui se passe, c'est que, au fond, toutes les idéologies reposent sur des fictions. On pourrait dire que finalement, d'une certaine façon, le communisme n'a jamais été réalisé en Union soviétique. Il n'a jamais été réalisé. On ne peut pas dire, si Marx était revenu, il aurait été complètement suffoqué par cette réalité qui se référait à ses œuvres. Ça n'avait plus rien à voir. C'était un système de domination oligarchique. Et chaque fois, on se retrouve devant un phénomène oligarchique. C'était la partocratie, c'est-à-dire, c'était un parti, bon, il y avait 2-3 millions de gens qui étaient des privilégiés, qui étaient aux ordres, n'est-ce pas, du gouvernement, c'est-à-dire d'une poignée de décideurs tout-puissants autour du secrétaire général, et la masse était obligée de suivre. Donc de quelle démocratie ? On parlait pourtant de démocratie socialiste, mais il n'y avait aucune démocratie. Et le communisme qui visait au contraire, qui cherchait au contraire à supprimer les hiérarchies, à supprimer les injustices, à supprimer, devenait une caution de son contraire. Et ce qui me paraît le facteur principal des systèmes totalitaires, c'est d'être toujours, de cautionner le contraire des intentions qui sont proclamées. Parce qu'au fond, cela s'est produit à tout moment. Alors pour le nazisme, moi j'ai été un peu, si vous voulez, marqué par cette époque, mais d'une manière très particulière, parce que c'était dans la France de l'occupation. Je suis né, mon père disait, je suis né le jour de l'Anschluss, c'est-à-dire au moment où l'Allemagne a occupé l'Autriche. Je me souviens très très bien, j'ai quand même gardé le souvenir de mon enfance, de cette France pétainiste, qui non seulement qui acceptait avec enthousiasme l'occupation, la collaboration, par peur, parce que c'était la raison était très compréhensible, et on ne devrait pas au fond jeter la pierre à ces gens-là, parce qu'ils avaient été entièrement traumatisés par la Première Guerre mondiale, qui a été pour la France véritablement un abattoir. Donc on ne voulait pas recommencer cette expérience. Et pour ça, on peut comprendre que, par exemple, un écrivain comme Giono, qui n'avait rien de fasciste, eh bien, a accepté la collaboration parce qu'il, par pacifisme, parce qu'il pensait qu'il valait mieux pactiser avec l'ennemi. On ne savait pas encore ce qu'il représentait. Cela aussi, déjà, on a ce phénomène, vous voyez, d'ignorance,
ouais, oui,
d'aveuglement. On ne savait pas ce que Hitler représentait, au fond. Il était plutôt, il avait parfois une bonne cote. Si on peut rappeler, par exemple, que les surréalistes, ils étaient vent debout contre la guerre. Ils estimaient qu'on stigmatisait l'Allemagne, par exemple. Vous savez, parce que au nom du national, parce qu'ils étaient contre le nationalisme. Donc, ce sont des phénomènes récurrents. Et aujourd'hui, on retrouve tout cela dans cette nouvelle idéologie dominante qui s'appuie, enfin qui se réclame. De la démocratie, des droits de l'homme, d'un humanisme que l'on veut répandre partout, on veut convertir les barbares, et qui en réalité, n'est-ce pas, se réduit à une logorée entièrement déconnectée des réalités. Parce que si on analyse la situation sociale, par exemple en France, on est loin de la démocratie, que ce soit dans le domaine des élections, que ce soit dans le domaine économique, n'est-ce pas ? Quand on voit les plans sociaux, quand on voit le cas que l'on fait des ouvriers, et quand ils se rebellent, quand ils réclament, il y a tout un phénomène là, vous voyez, d'oppression qui est au fond, qui a toujours pour caution une idéologie qui est fondée sur l'inversion des rôles, complètement l'inversion des rôles.
Alors, on va revenir.
Et les deux poids, deux mesures, etc.
On reviendra là-dessus. Alors, on va peut-être reprendre le fil de votre livre. Il y a un personnage qui est formidable dans votre livre, et j'avoue que mon ignorance totale, et c'est un peu votre fil rouge, c'est la figure de Yevno Azef, qui est né en 1869 et mort en 1918. C'est un personnage qui est méconnu, je pense, du grand public. Hein. C'était un agent double. Il était le chef de la section terroriste des socialistes révolutionnaires. Et la police politique, à l'époque, était l'Okhrana, la police politique secrète du tsarisme. Alors, il a un peu mystifié tout le monde. Il est devenu, à la fin, ce spéculateur en Allemagne. Ça, c'est votre fil conducteur. C'est l'homme moderne qui a compris, qui a tout compris, lui.
Qui était dans les deux camps, finalement.
Qui était dans les deux camps.
Et qui combattait les deux camps.
Il est à la fois
dans les deux camps et il combat les deux camps.
C'est une figure que j'aimerais dire paradigmatique.
Mais alors, qui c'était ?
Alors, Azef, pour le présenter, il y a un côté très romanesque dans cette histoire.
Oui.
Et je vous assure, moi j'avais envie d'en faire un roman.
Mmh. Oui, il y aura de quoi.
C'est absolument extraordinaire. Ouais. Quand Bourtsev, qui le dénonce, le journaliste d'investigation, parce que les socialistes révolutionnaires avaient décidé d'employer la terreur pour renverser l'état tsariste. Donc ils se sont livrés à une campagne d'attentats fantastique, hein. La Russie de cette époque, on avait une psychose des attentats comme on en a
alors
aujourd'hui.
C'est en quelle année, là?
Dans les dernières années du 19e siècle.
D'accord.
De 1970 jusqu'à 1990, voilà, dans ces années-là, vous voyez.
C'est une campagne d'attentats.
C'est une campagne d'attentats. Ben, Azef, ensuite, il a connu quand même la Première Guerre mondiale, il a été arrêté à Berlin, enfin, c'est une histoire. Alors, Azef était un juif d'origine modeste, et qui voulait, au fond, prendre sa place dans la société. Et il s'est lui-même.
Il est né en Russie.
Il est né en Russie, dans le sud de la Russie, mm-hmm. et voulant au fond arriver, n'est-ce pas, avoir une situation sociale agréable. C'était un homme qui aimait beaucoup l'argent, qui aimait beaucoup la bonne vie, si vous voulez. Au fond, c'était son principal facteur. Son principal
moteur
d'intérêt, etc. Donc il a très tôt adhéré à l'Okhrana. Et l'Okhrana, c'était la police politique, c'était avant on appelait ça la troisième section, qui évidemment luttant contre
la police politique du tsar.
C'était une section de la police qui se consacrait à démasquer les provocateurs.
Les anarchistes.
Les anarchistes, les terroristes, enfin, c'était surtout le Parti Socialiste Révolutionnaire qui était très puissant à cette époque. Les bolcheviks, au fond, ils n'étaient pas encore D'accord. actifs. Ils sont venus plus tard, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ils sont venus vers la fin. Mm-hmm. Mais là, c'était encore l'époque. Alors, ils étaient appuyés sur la paysannerie. Ils voulaient émanciper les paysans. Les réformes d'Alexandre II s'étaient révélées insuffisantes, la réforme du servage. Et donc, ça a encore aggravé les luttes politiques et sociales. Et donc, il s'est formé dans l'intelligentsia, il s'est formé un courant contestataire, très violent, qui visait à instaurer en Russie un régime socialiste qui après a été réalisé, enfin en principe a prétendu être réalisé par les bolcheviks. Et alors Azef donc est entré à l'Okhrana et on l'a chargé de noyauter le Parti Socialiste Révolutionnaire. Et comme c'était quelqu'un qui était très, très habile, il est arrivé au sommet de la direction de ce parti et il a même été le chef tout puissant de la section terroriste, c'est-à-dire que c'était lui qui organisait les attentats, qui décidait les attentats, et tout en faisant des rapports à ses chefs sur. Alors, il a été manipulé, il faut bien le dire, par des grands dignitaires du régime qui se servaient au fond des terroristes pour leur but personnel. Par exemple, il y avait un ministre qui s'appelait le premier ministre, qui s'appelait White, il était d'origine allemande, qui, étant tombé en disgrâce, sentant qu'il allait perdre sa place, avait demandé, alors il y avait donc une sorte de complicité permanente entre cette Okhrana et le terroriste. Le moment le plus flagrant, ça a été l'assassinat d'Alexandre II. Alexandre II qui voulait vraiment faire des réformes, qui voulait le jour, vous savez, c'est une date tout à fait significative, le jour où il devait signer un décret qui lui avait été présenté par un premier ministre, on pourrait dire libéral, n'est-ce pas, qui comprenait que la monarchie ne pouvait pas continuer comme cela dans un régime d'absolutisme et qu'il fallait établir une constitution et qu'elle devait désormais gouverner avec la Douma. Au moment où il a décidé de créer la Douma et donc de transformer la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle, c'est ce jour-là qu'il a été assassiné. Et il a été assassiné par des terroristes qui, évidemment, l'ont assassiné en toute bonne foi, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient surveillés par la police. Et la police, qui était manipulée d'en haut par de grands personnages qui voulaient supprimer ce tsar qui les gênait, pour garder justement ce régime absolutiste, eh bien, on laissait faire. Et donc, tout se passait donc dans une sorte de complicité, de double jeu permanent. Alors, ce qui m'a frappé chez Azef, c'est qu'on ne pourrait pas dire qu'il se battait pour une cause contre une autre. Il utilisait chaque cause dans son propre intérêt, dans son intérêt personnel.
Dans son intérêt personnel, c'était quoi? C'était simplement pour avoir une meilleure vie, d'abord, accéder à des postes.
Je crois qu'il y a un phénomène de puissance. Quelqu'un qui peut justement manipuler avec succès deux forces antagonistes en éprouve une sorte, quelqu'un qui vient du bas, qui cherche à s'imposer, qui cherche à être reconnu et qui arrive à ce degré de puissance, je crois qu'il y a déjà là une satisfaction qui peut justifier ce double jeu.
Mais Azef était un agent ou est-ce qu'ensuite il a grimpé dans l'échelle sociale de l'Okhrana? Enfin, est-ce qu'il est devenu un des dirigeants?
Non, il était un agent de l'Okhrana et il faisait des rapports à l'Okhrana. D'accord. Et il appliquait les mais lorsqu'il a été, ce qui est le plus intéressant, c'est que les socialistes révolutionnaires ont commencé à se douter qu'il y avait chez eux un espion, un agent double qui provoquait des arrestations, des attentats qui étaient minutieusement élaborés, échoués brusquement, n'est-ce pas? On arrêtait les gens, alors d'où la police tient ses sources. Et un journaliste d'investigation évidemment, qui appartenait à ce parti, qui était proche de ce parti, qui s'appelait Bourtzef, qui a été un chasseur de tête extraordinaire, parce qu'il a démasqué pas seulement Azef. Et c'est lui qui a dénoncé pour la première fois le faux des protocoles des sages de Sion, dont je parle ensuite. Ouais. Et c'est lui aussi qui a dénoncé la complicité entre les bolcheviks et l'Empire allemand, parce que sans l'argent allemand et sans la protection allemande, Lénine n'aurait jamais pu rejoindre la Russie et il n'aurait jamais pu faire son coup d'État. Mmh. N'est-ce pas ? Il y a eu véritablement une alliance. Alors cela, les révolutionnaires ont dit que c'était des inventions, mais ça a été prouvé. Et Bourtzef était une sorte de... Il avait un flair extraordinaire. Et donc, il a dénommé ça. Alors, toute l'histoire de la chasse, si vous voulez, il essaie de trouver qui dans cet appareil et l'espion. Et il tombe sur Azef, après avoir fait toute une véritable enquête. Il le dénonce. Eh bien, les socialistes révolutionnaires, au lieu de le suivre, alors qu'il représentait, ça encore, on a un phénomène du tiers inclus, n'est-ce pas ? Au lieu de reconnaître le bien fondé de ses accusations, parce qu'il avait des preuves, le convoi lui font un procès, le condamne à mort. Lui, comme un provocateur. C'est lui qui dénonce le provocateur, qui est menacé de mort par les provocateurs. Et Azef a été soutenu de notre côté par ses chefs dans l'Okhlana, qui ont dit, mais non, il est trop utile, c'est pas du tout, c'est très bien qu'ils l'ont toujours soutenu, Gerasimov, qui est un général Gerasimov, qui était son chef immédiat, l'a toujours soutenu. Donc il a été soutenu par les deux parties qu'il trahissait, simultanément. Et finalement, il y a quand même parfois, il y a toujours quand même des gens honnêtes, si vous voulez. C'est un peu le salut. Et il y avait au sein de la police, un directeur de la police judiciaire qui était tout à fait au courant des agissements d'Azef et qui ne les approuvait pas. Et qui n'approuvait pas l'utilisation des agents doubles par l'Okhlana. Il trouvait que c'était malhonnête, n'est-ce pas ? Que c'était un
homme de droit. En fait, c'était plus qu'un agent double, c'est un agent triple.
Oui, non, mais il était, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'il n'était pas, on ne pourrait même pas parler de dire qu'il est double, parce qu'il était, je vous dis, il ne choisissait pas. Et ceci dit, quand Bourtzef l'a arrêté, il lui a dit, vous savez, vous avez commis une grave erreur, parce que si vous m'aviez laissé faire, j'aurais assassiné le tsar. Il a fait deux tentatives d'assassinat du tsar.
Il y a un petit côté Fouché chez lui.
Oui.
Hein,
oui.
C'est c'est lui avant tout, quoi.
Voilà, c'est Fouché, oui, vous avez raison. Ça ressemble beaucoup à l'attitude de Fouché qui a servi tous les régimes.
Tous les régimes, oui.
C'est un peu le même phénomène, oui. Mais après, il a été...
Alors, il termine comment, Azef ?
Ben, Bourtzef, alors il a été dénoncé, il s'est enfui, il a été prévenu à temps, il s'est enfui...
Il a été dénoncé par...
Par Bourtzef, non, parce que j'ai pas terminé, oui. La raison pour laquelle, c'est qu'un haut fonctionnaire de la police, d'une grande aristocratie, d'ailleurs, il avait pour ancêtre la première femme de Pierre le Grand, c'était un grand aristocrate, et un beau jour, Bourtzef le poursuivait, il voulait absolument lui faire cracher le morceau, vous savez. Et alors, il y a une scène absolument extraordinaire, il sait que ce haut fonctionnaire allait passer ses vacances en Allemagne, il le piste à la gare de Cologne, il attend son train. Le train arrive, il voit ce personnage qui traverse la gare et qui va prendre un autre train pour prendre la correspondance. Il rentre dans le train et là, il travaille, il lui pose des questions et finalement l'autre dit « Ben écoutez, oui, vous avez raison. Eh bien, c'est Azef. » Et alors il lui dit « Écoutez, signez-moi un papier. » Alors il signe un papier et ensuite le Parti révolutionnaire a envoyé deux émissaires auprès de ce haut fonctionnaire pour lui demander de confirmation. Il a confirmé et il a été envoyé en Sibérie pour trahison. Il a écopé pour avoir été, disons, pour avoir en quelque sorte obéi à sa conscience, si vous voulez. C'est ça qui est très frappant. C'est dans ce pacte avec le diable qui est au fond le moteur principal de tous ces systèmes totalitaires. Il y a parfois des gens qui refusent, n'est-ce pas ? Qui préfèrent obéir à leur conscience, quoi qu'il leur en coûte, n'est-ce pas ? Et qui ne veulent pas passer ce pacte avec le diable. Enfin, vous voyez ? Parce qu'au fond, il y a toujours un pacte avec le diable. Est-ce que vous pactisez ? Est-ce que vous faites un compromis ? Vous aurez la paix. On va vous épargner. Sinon, il faut risquer. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui veulent risquer leur sécurité, la sécurité de leur famille, etc., pour une cause qu'ils croient, simplement pour la vérité, même pas pour une cause, pour faire éclore la vérité. Vous en avez très peu. Regardez, pendant la guerre, je parlais de l'occupation, vous savez, le phénomène de la résistance, il a été quand même beaucoup majoré.
Oui.
Il faut bien reconnaître. Moi, j'ai le souvenir d'une France, comme je vous l'ai dit, très pétainiste.
Ah oui. C'est ça. Oui, ça, c'est tout le mythe gaullien. Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie et nous recevons dans les Chroniques de la Vieille Europe Gérard Cogniaux pour son livre Théologie de la provocation. Alors, Azef est important parce que pour vous, il est le prototype de l'homme moderne, c'est son absence de principe.
Voilà. Et d'ailleurs, il ne se disait pas socialiste. Il était pour la violence révolutionnaire pour renverser le tsarisme. Et au fond, il se disait libéral. C'est-à-dire qu'il était pour l'entreprise, pour la spéculation, c'était un spéculateur. Quand il a échappé, justement, d'ailleurs après, il y a eu des compromis aux sécessionnistes révolutionnaires qui cherchaient à l'éliminer, qui voulaient se venger, il s'est réfugié à Berlin, il spéculait en bourse, il s'était constitué un bon pécule, il vendait des corsets pour femmes, il avait créé une entreprise, et puis il a été arrêté au moment de la guerre en tant que sujet russe. En tant que sujet russe, il a été arrêté, on l'a mis en prison, pas du tout pour tout ce qu'il avait fait avant, non, ça n'intéressait pas du tout les Allemands. Mais lui, en tant que sujet russe, automatiquement, on l'a mis en prison. Et là, il est tombé malade et il est mort à la suite d'une maladie qu'il avait contractée en prison, tout simplement.
Alors, c'est votre fil rouge parce que si on arrive à une époque plus récente, vous considérez que, par exemple, cette sorte de double allégeance, on la retrouve, par exemple, sur 68. C'est-à-dire ces jeunes révolutionnaires qui, en fin de compte, et vous reprenez le travail qu'avait fait Dominique Deroux à l'époque, ces jeunes gauchistes de l'Odéon qui vont être, grosso modo, financés par la CIA. C'est-à-dire qu'on les pousse à aller vers cette société moderne et cette société de consommation.
Exactement. Si on considère ce qu'ils sont devenus, on en a la preuve, mais ça, personne, très peu peuvent le reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de Michel Onfray, parce que je connaissais, Michel Onfray, mais pas plus que ça. On avait quelques échanges sympathiques, je lui ai envoyé mes livres, et puis voilà. Et puis, quand j'ai écouté ses émissions, où il a exposé les idées de Jean-Pierre Le Goff sur... Qui a dénoncé véritablement, qui a démasqué... Ouais,
cette extrême gauche culturelle.
Démystifié l'esprit de mai 68. J'ai dit enfin quelqu'un qui ose dire la vérité sur ce qu'a été mai 68. Alors qui reste quand même toujours un objet de nostalgie, n'est-ce pas? Même chez les gens les plus déçus du gauchisme, du maoïsme évidemment et de tout le reste, il reste quand même une nostalgie comme une grande occasion manquée. Mais c'était pas une occasion manquée, c'était une provocation. Et moi, je pense que justement, là, l'une de mes thèses, si vous voulez, dans ce livre, c'est que toute l'histoire moderne, depuis la fin du tsarisme jusqu'à nos jours, est jalonnée non pas par des révolutions qui cherchent à émanciper le peuple, qui cherchent à améliorer la situation de l'humanité, qui sont mues par l'idée de progrès. Elles sont mues par l'idée de progrès. Mais le résultat est l'inverse du progrès. Le résultat est une décadence progressive. Alors, on ne peut nier, ça c'est vrai, qu'il y a réel. Je ne suis pas aussi aveugle pour ne pas reconnaître qu'il y a véritablement un progrès matériel, un progrès technologique, un progrès dans les conditions de vie, un progrès dans l'amélioration, que même le capitalisme, avec tous ses abus, avec tout son cynisme, avec toute son arrogance, reste peut-être préférable à un système totalitaire tel qu'on l'a connu sous le communisme, où véritablement il n'y avait pas d'issue, n'est-ce pas, où les gens étaient traités comme du bétail, où il y avait ce collectivisme qui empêchait toute possibilité de réalisation personnelle, sinon pour des opportunistes ou pour des gens qui profitaient justement du régime, et ce qui amenait justement à la création de cette oligarchie dont j'ai parlé. Mais aussi, aujourd'hui, nous vivons aussi sous un régime oligarchique. Il est évident que ce qu'on appelle la démocratie, mais ça tout le monde le dit. Seulement, vous voyez, il y a un problème de langage. Il y a un problème de surdité aux mots. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tout le monde sait exactement ce qui se passe, on ne peut pas nier cela. Tout le monde a tous les moyens à sa disposition, par Internet, etc. Tout le monde a peu démêlé le vrai du faux, n'est-ce pas, lire les journaux les plus disons endoctrinés, n'est-ce pas, par cette idéologie pseudo-démocratique, je ne les cite pas, mais vous voyez à qui je pense. Eh bien, on peut très bien les lire et en tirer aussi, n'est-ce pas, en démêler là le vrai du faux. Mais on n'a pas, ce qui est le plus grave, je crois, c'est que les esprits ne sont plus formés à cela. Et la clé, c'est dans l'école, c'est dans l'éducation. Si on apprenait aux enfants véritablement à étudier la littérature comme il faut, vous voyez, à faire des explications de textes, on formerait leur esprit critique, on les amènerait peu à peu à devenir des citoyens. Mais ils ne sont pas des citoyens. Et alors ce qui se passe, je crois que c'est un phénomène que j'ai connu qui existe en Russie, mais ça qui est dû aussi à une certaine tradition russe, qui est dû à, c'est propre à la culture russe, c'est qu'il y a il se produit à un certain moment une véritable dissociation entre le peuple et l'État, vous savez, entre le peuple et la politique, je dirais. Vous voyez, c'est-à-dire que les Russes sont toujours maintenus, ils ont toujours réussi à résister entre eux par la solidarité, par la pratique de vertu qui était au fond inculquée depuis très longtemps, par la religion, par l'orthodoxie. Vous savez, la charité, le don, l'intérêt aux autres, qui est inné chez les Russes, beaucoup plus que chez nous. Et donc, à ne tenir aucun compte de cette espèce de mascarade qu'est le monde, qu'est la vie politique. Surtout les régimes.
Il y a toujours eu une méfiance chez les Russes du pouvoir politique.
Ah, une méfiance. Une méfiance et en même temps, quand même,
Avec de la fatalité, c'est-à-dire que...
Il y a du fatalisme, il y a la foi dans la providence. Il y a une sorte de providentialisme. Même si ça tourne mal, on vit des épreuves, on est dans le malheur, il y a des répressions, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est dans les récits, dans les témoignages des gens qui ont subi le goulag, on le voit, ça. C'est pas cette résistance spirituelle, je dirais. Vous voyez, ils arrivent à se détacher des contingences de tout ce qui peut leur arriver par cette foi, alors là, dans une autre sphère. Ça, c'est pour ça que je dis qu'au fond, la théologie, par la provocation, vous voyez très bien à quoi je veux en venir. Pourquoi la théologie? C'est parce qu'au fond, cette théologie, elle se réfère, on m'a demandé de faire un article pour expliquer mon livre du point de vue orthodoxe, elle se réfère effectivement à une conception religieuse qui, au fond, est d'essence gnostique. C'est-à-dire qui repose sur la conviction que le monde tel qu'il existe est dominé par le mal, n'est-ce pas ? Que l'homme est poussé au mal, et toute l'histoire moderne, évidemment, malheureusement, montre cela, n'est-ce pas ? Ces manipulations, ces provocations. Donc on est dans une espèce, et ce n'est pas nouveau, Hegel disait « l'histoire est un abattoir ». Hegel, qui aussi était un idéaliste absolu, il croyait dans l'avènement de l'esprit absolu, il avait édifié son formidable système de dialectique qui était destiné à prouver que malgré tout, l'histoire allait de l'avant et qu'elle allait arriver à créer un homme-dieu, n'est-ce pas ? La grande idée hegelienne, au fond, c'est de substituer au dieu-homme l'homme-dieu. Hein, c'est l'esprit absolu, c'est cela, c'est l'histoire, la déification de l'histoire, la déification du sens de l'histoire. Alors, évidemment, cela a été instrumentalisé, cette idée hegelienne, elle s'est transposée dans le nazisme, évidemment, puisque le messianisme, le nazisme était un messianisme, n'est-ce pas ? Et bien plus encore dans le communisme, où là, il y avait une filiation directe de Hegel à Marx. Et donc, donc ce qui a été le moteur principal de cette nouvelle religion dont j'ai parlé, de cette religion communiste, c'était la foi dans le sens de l'histoire. Dans un sens de l'histoire qui justifiait justement tous les crimes, tous les massacres, toutes les horreurs, il faut le faire et on retrouve.
Il faut passer par là.
Mais on retrouve cela dans le démocratisme. Je citerai les paroles de Monsieur Cohn-Bendit au moment de la guerre de Yougoslavie. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit oui, nous avons du sang sur les mains, mais il fallait le faire. Pourquoi il fallait le faire ? Parce qu'il fallait détruire cette horreur qui était le nationalisme serbe. Parce que dans un régime, dans un système qui est, n'est-ce pas, justement, qui se veut démocratique et qui veut éliminer les États-nations, qui veut éliminer toutes les identités nationales et culturelles pour réaliser enfin le règne de cet homme nouveau, n'est-ce pas, que préconisait déjà, dont parlait déjà Fukuyama quand il parlait de la fin de l'histoire. Il y a cela, n'est-ce pas? Le démocratisme est aussi un messianisme. Et on en voit malheureusement les preuves tous les jours. avec l'utilisation des boucs émissaires, avec la justification de massacres collectifs. Combien de gens sont morts en Irak à cause d'un mensonge ? 1 million, je crois. Je ne sais plus, ça c'est les statistiques. Mais on n'en tient pas compte. Parce que la démocratie ne peut pas se tromper. Parce que la démocratie, elle justement, elle assure, elle incarne, n'est-ce pas, le bien absolu. Et c'est au nom du bien qu'on commet le plus grand mal. Il y a cela aussi qui apparaît, n'est-ce pas? C'est que le bien devient un moyen. Il est utilisé. C'est au nom du bien qu'on commet le mal. Mais ça, c'est pas nouveau. C'était déjà sous l'Inquisition. N'est-ce pas? On voulait faire le salut de ces malheureux qui avaient abjuré le christianisme et donc il fallait sauver leur âme. Donc on brûlait leur corps. Cela reste permanent, n'est-ce pas, dans toute idéologie, justement, qui est d'essence, que j'appelle d'essence au fond totalitaire, qui veut tout, n'est-ce pas, qui cherche justement à unifier le monde sous sa bannière.
Parce que vous expliquez que la société moderne, enfin la société occidentale, elle lutte contre les maux qu'elle engendre elle-même. Vous le dites, elle lutte contre le chômage, contre le racisme, l'antisémitisme, contre l'exclusion, contre le sida. Mais en fin de compte, c'est elle qui a engendré ces mal-là. Ces maux. Et donc il y a une sorte de culpabilité sur le peuple à dire bah, maintenant il faut lutter contre...
On lutte contre les maux qu'on engendre soi-même.
Ouais, c'est terrible.
On en revient à Azef, là.
Oui. C'est ça. Mais c'est parce qu'aussi, vous comprenez, parce qu'à partir du moment où on est déconnecté, il y a une déconnexion, il y a une dissociation qui se produit entre les mots et les choses. Et les mots se suffisent à eux-mêmes. On est dans un nominalisme. Le mot existe en soi. Vous voyez, par exemple, on dira le nom de Poutine se suffit. C'est un mot, c'est le mot. Si on se débarrasse de lui, la Russie sera sauvée. Beaucoup de Russes le pensent d'ailleurs, par exemple. Tous ces boucs émissaires qui étaient au fond des monstres de papier quand même, quelque part, ils ont servi justement à l'expansion de ce soi-disant système démocratique, mais qui a abouti à un chaos sanglant. Alors maintenant, on constate qu'on est devant un mur, on n'a plus d'issue, n'est-ce pas? Tout le Moyen-Orient est complètement, disons...
À feu et à sang.
En feu et à sang. Donc on est bien obligé de faire un peu marche arrière, de se rétracter. Mais il y a toujours cette idée, on est mû par cette idée qu'on possède vraiment la vérité, que notre régime est le meilleur possible et qu'il n'y en a pas d'autre. On peut citer la parole de Churchill, que c'est etc. Bon. Mais si on analyse... On s'aperçoit qu'au fond, c'est un régime qui a hérité des principales tares des régimes précédents. On a publié à l'âge d'homme un livre qui s'appelle Le communisme de marché. D'une communiste qui s'appelle Florence Moncorbier. C'est un livre remarquable.
Robin Turgy et Flora Moncorbier.
Oui, voilà, le communisme de marché. Et on voit qu'il y a les analogies que l'on peut faire entre l'économie, la planification communiste et le régime capitaliste occidental. Oui. Ou alors, on peut dire aussi que...
Avec votre livre Théologie de la provocation, j'ai pensé au concept de la stratégie de choc de Naomi Klein. Est-ce qu'il y a un parallèle? Est-ce qu'on peut établir un parallèle sur la façon dont le capitalisme engendre comme ça à intervalles réguliers des chocs?
Des chocs, des guerres, des révolutions.
Oui, des chocs.
Le capitalisme instrumentalise les chocs, absolument. On a toujours besoin d'un nouveau choc, d'une nouvelle thérapie, n'est-ce pas? Un choc qui est toujours thérapeutique, qui est toujours pour guérir, et qui en fait cause encore plus de mal, chaque fois. C'est ça, on est toujours dans une succession de chocs pour... Et c'est ce que j'ai appelé, moi j'ai osé appliquer au capitalisme la notion de révolution permanente qui a échoué dans le communisme, comme on sait bien, puisqu'à partir du moment où Trotsky a été vaincu et que Staline a pris le relais, Staline a refusé cette orientation et il a préconisé le socialisme dans un seul pays. Mais au début, et Lénine aussi d'ailleurs, il voulait que la révolution soit universelle et qu'elle soit permanente. Eh bien moi je crois qu'au fond, nous vivons dans une situation, en parlant des chocs, de révolutions permanentes. Ces chocs, et c'est pourquoi j'ai parlé de provocation, c'est que tous ces chocs qui sont présentés comme des chocs, comme des révolutions, regardez l'utilisation des mots. Il y a des mots qui sont positifs en eux-mêmes. Par exemple, le mot la modernité. C'est positif en soi. On ne peut pas aller contre la modernité. C'est aller contre le progrès, c'est aller contre le bien de l'humanité. On ne peut pas. On ne peut pas aller contre la démocratie. Mais si on analyse quelle est la réalité de la démocratie sous le nom mot de démocratie, on s'aperçoit que la réalité n'a rien à voir avec la démocratie telle qu'elle est théorisée. Donc là, on est devant aussi une contradiction. Et en ce qui concerne justement les chocs, j'ai constaté que toutes les révolutions... Tous ces chocs qui se présentent comme des révolutions mues par le désir de bien, par exemple ce qui s'est passé en Ukraine, c'est pas, personne ne peut nier que Yanukovych était un type abominable et qu'il fallait le renverser. Mais en tout cas, il était président, il était élu. Ce n'a pas été une révolution, ça a été un putsch, mais ça a été représenté comme un choc salutaire. En réalité, cela a entraîné une régression épouvantable dans le pays, une guerre abominable, où on a sacrifié une partie de la population, la partie de la population a été véritablement sacrifiée. Heureusement, il faut bien dire, elle a été défendue par la Russie, pas d'une manière directe, d'une manière indirecte, et ils ont pris les armes, et ils ont résisté jusqu'à présent. Mais cela, on n'en avait pas besoin, n'est-ce pas ? Pourquoi, au nom de la démocratie, provoquer des affrontements aussi sanglants ? Et en plus, dans un mouvement qui se dit démocratique et qui est entièrement dominé par des groupes néo-nazis que l'on minimise en prétendant qu'ils ne représentent que 2 ou 3% de la population, ce qui est un argument absolument dérisoire. Aujourd'hui, en Ukraine, les néo-nazis continuent à faire la loi, tous les jours. On a les criminels de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, Bandera, Shukievich, sont devenus des héros nationaux de l'indépendance ukrainienne. Ce sont ceux qui ont créé l'UPA, qui a collaboré avec le nazisme. Ils ont massacré des centaines de milliers de Polonais, de Juifs, etc.
Quelque part, Gérard Cogniot, est-ce que c'est pas les idiots utiles du système ? Parce qu'en fait, un jour ou l'autre, ces gens-là, on va décider qu'ils ne prennent pas le pouvoir, on va les arrêter et on aura un nouveau sauveur. Ça me fait penser à cette phrase du Guépard, tout changer pour que rien ne change.
Tout à fait.
C'est à chaque fois la même chose.
Ce sont des idiots utiles, ouais. Vous avez raison. On les utilise. On les utilise en prenant soin de ne pas les exhiber. Parce que ce serait trop flagrant. Moi, j'ai pas fait. J'ai eu parfois des velléités d'écrire un livre qui s'appellerait « Hitler a gagné la Troisième Guerre mondiale ».
Oui, alors là, vous êtes vraiment dans la provocation, Gérard Cogniot.
Parce que quand on voit la renaissance du nazisme dans beaucoup de pays de l'Est, dont on ne parle pas, dans les pays baltes, en Ukraine, il y a une renaissance du nazisme qui est officielle, n'est-ce pas ? Et en même temps, des pays qui sont considérés maintenant comme des garants de la démocratie. Donc là, on est devant constamment des phénomènes de contradiction. Et c'est parce que justement, parce que à partir du moment où on instrumentalise certaines, c'est ce qui s'est passé, par exemple, je vous l'ai dit, en Yougoslavie avec Luceka. Luceka, c'est un parti mafieux. Tout le monde le sait. Ils organisent jusqu'à présent le trafic de drogue dans toute l'Europe. Ils ont fait le trafic d'organes. Ils ont été dénoncés par un sénateur suisse. C'est venu au Parlement européen. Ça a été étouffé. Et donc on en revient à ce phénomène-là de surdité. Vous voyez, on est sourd à ce qui nous gêne. Les gens ne veulent pas entendre parler de ce qui peut être gênant. Ce qui peut les gêner dans leur confort personnel, qui peut les mettre en danger, parce que s'ils abondent dans un sens qu'au fond, ils savent que c'est le sens du vrai. Ils le savent, tout le monde le sait. On ne peut pas dire que c'est... Vous voyez, mais on se persuade soi-même que... J'ai vu ça dans les pays de l'Est, j'ai vu ça sous le communisme. J'avais des amis qui me disaient, tu sais, on s'empêche de penser... Ce qui peut être nuisible ou même inutile, on l'évacue. Il y a un phénomène d'autocensure, n'est-ce pas, qui fait que il vaut mieux ne pas penser à cela. Donc, on ne dit rien ou on abonde dans le sens de l'opinion dominante. selon notre degré de cynisme et d'opportunisme. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qui se passe en général.
On a l'impression quand même dans les pays de l'Est, dû à mon avis, moi je l'ai senti comme ça en vous lisant, que leur expérience du communisme fait qu'ils se, contrairement à ce qu'on peut croire, se méfient beaucoup plus de l'Occident que les Occidentaux eux-mêmes. Et l'exemple de l'Allemagne est assez intéressant sur le problème des migrants, c'est que c'est dans les anciens Länder de l'Est qu'on est beaucoup plus inquiet de cette arrivée des migrants que à l'ouest de l'Allemagne, quoi.
Ils ont quand même, par rapport, c'est ce que j'écris aussi, c'est que les citoyens de l'Est, par rapport aux citoyens de l'Est, ils ont une meilleure, grâce à leur expérience du communisme, ils sont plus vigilants. Ils sont plus vigilants envers les dangers qui peuvent d'un totalitarisme qui peut revenir, vous voyez. Ils sont beaucoup plus vigilants, ils sont beaucoup plus critiques, ils sont beaucoup plus méfiants. Mais en même temps, il y a eu quand même un retour du refoulé extraordinaire dans les années 90, où on ne peut pas, d'ailleurs les Américains l'ont reconnu eux-mêmes, ce n'a pas été une défaite de l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est sabordée elle-même dans la personne de ses dirigeants. Pourquoi? Parce que étant donné la pénurie, étant donné, vous savez, le rideau de fer, étant donné cet état d'arriération économique dans laquelle était plongée la population, puisqu'au fond, ils travaillaient pour la puissance de l'État, et le peuple était pressuré pour, n'est-ce pas, pour que toutes les ressources aillent dans l'appareil militaro-industriel, la puissance nucléaire, etc., pour affirmer la puissance russe. Évidemment, chez les Russes, il y a un sentiment de grande puissance, je crois, qui est inné chez chaque citoyen russe. Parce qu'ils appartiennent à une grande histoire, ils appartiennent à un grand pays. Et cela a été un choc. Alors, ils ont cru dans la démocratie. Comme je crois, on ne l'a jamais cru en Occident. Ils y ont vraiment cru. Et ils ont voulu la réaliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une bande d'aigres fins, ils ont privatisé, ils ont fait ce qui avait été... Vous voyez, le communisme avait nationalisé toutes les ressources du pays. Eux, ils ont privatisé au profit de quelques... Simplement quelques groupes, dizaines.
On oublie tout l'épisode de Boris Eltsine, qui était le sauveur, celui qui allait amener la démocratie. On a complètement oublié cette période-là. Au départ, c'était l'homme de la démocratie.
Mais ça a été le naufrageur de la Russie.
Ouais.
Le naufrageur. Et avec un cynisme absolu. Vous savez, moi, il a d'abord commencé il a acquis évidemment l'adhésion de beaucoup de gens parce que au sein du parti, il a fait entendre effectivement des arguments qui étaient assez convaincants concernant les privilèges, etc. Par exemple, il refusait des comédies, vous savez, comme on en a tout le temps. Il refusait d'avoir une voiture à sa disposition et un chauffeur. En réalité, la voiture, elle l'attendait à l'autre coin de la rue, etc., etc. Donc, il se prétendait pour le peuple, avec le peuple, etc. Il a usé d'une forme de populisme pour... Et puis, il a ouvert les vannes aux multinationales occidentales. La Russie est devenue une colonie de l'Occident. Elle ne produisait plus rien. Elle était complètement, elle servait de... Et l'idée, c'était de puiser les ressources de la Russie. Ça, c'était toujours la grande idée, n'est-ce pas, d'utiliser toutes ces grandes ressources, et en prétendant en même temps, en affirmant, non sans raison d'ailleurs souvent, que les Russes n'étaient pas capables de s'en servir eux-mêmes. Les Russes n'ont pas le sens de l'économie, ce qui est vrai dans un sens. Les Russes n'ont pas trop le sens de l'économie, de la gestion. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ils arrivent quand même à de belles performances. Mais ils ont toujours été... Parce que ça, c'est aussi dû à la culture. C'est que dans la culture russe, elle a été toujours fondée plutôt sur la conception de l'homme comme être créateur. N'est-ce pas? D'où l'importance de l'art, de la musique, de la danse, de la littérature. On donne la préférence à la création. On veut développer avant tout l'homme en tant qu'être créateur et non pas comme quelqu'un qui cherche à s'enrichir. Si vous voulez, c'est l'être par rapport à l'avoir, on peut dire un peu, pour parler vite. On favorise l'être par rapport à l'avoir. Et l'Occident, évidemment, est fondé sur le principe de l'avoir, de l'acquisition des richesses, de la fortune, du pouvoir. Je pense qu'il y a de ça. Si on est en étant un peu schématique. Quand même.
C'est intéressant ce que vous dites sur l'art, parce qu'il y a des choses passionnantes que vous dites sur l'art moderne. C'est qui a joué un grand rôle dans cette provocation. Il y a peu de penseurs qui ont fait rejoindre l'art et l'idéologie dominante. Je pensais à René Huyghe qui expliquait dans son livre Les signes et l'art moderne que l'art est un témoignage intuitif sur la psychologie collective de l'époque. Vous allez plus loin. Pour vous, l'art a été mis à contribution. L'art moderne a préparé presque la voie du libéralisme et du marché. Vous qui êtes un spécialiste des avant-gardes, ça c'est quelque chose qui est peu connu, enfin qu'on a du mal à...
Oui. Je me suis évidemment, ce livre est le premier qui sort de mon domaine habituel, puisque presque tout ce que j'ai écrit portait sur l'art et la littérature en Russie et accessoirement en Pologne. Et effectivement, j'ai toujours été, d'ailleurs je suis un peu considéré aussi comme quelqu'un qui a beaucoup contribué à faire connaître tous les grands courants de l'avant-garde russe. Et je reste tout à fait attaché, n'est-ce pas, à ces courants. Mais c'est parce qu'ils voulaient, justement, eux, ils opposaient la modernité à la tradition en voulant développer chez l'homme, justement, ces facultés créatrices dont j'ai parlé, ces facultés d'invention. Ils voulaient échapper à la routine, à la répétition, à la... vous voyez, il y a eu véritablement un grand mouvement émancipateur des facultés créatrices de l'homme dans le domaine du langage, dans le domaine de la peinture. C'est à ce moment-là qu'on a créé, ben pas seulement là, mais on a créé l'art abstrait, l'art non figuratif. Vous avez Malevich, toutes ces grandes figures de l'avant-garde auxquelles je reste attaché et que je continue d'ailleurs à servir. Mais il est vrai que dans cette volonté de briser le moule de la tradition, n'est-ce pas, de faire une table rase, c'était quand même le grand mot, hein, de faire une table rase, et en même temps, en inventant des procédés qui ont été extrêmement stimulants pour la création littéraire et artistique, c'est-à-dire, par exemple, cette idée, une idée très forte des formalistes russes. Vous savez, on a beaucoup parlé du structuralisme, mais on n'a jamais vraiment rappeler que s'il n'y avait pas eu les formalistes russes auparavant, il n'y aurait pas eu les structuralistes. Et que les formalistes, d'ailleurs, que le structuralisme a été aussi une certaine, en quelque sorte, une déviation du formalisme. Et l'un des grands principes du formalisme, c'était ce qu'on appelait en russe l'idée d'ostranienie, c'est-à-dire que l'art est destiné à nous à aller du connu vers l'inconnu et à nous procurer une nouvelle image du monde, une nouvelle image, de rafraîchir en quelque sorte notre imagination, voyez, qui croule sous des poncifs, sous des clichés qui sont répétés par l'éducation, par l'école. Donc c'était un grand mouvement de subversion contre le principe d'autorité. Et effectivement, il a été salutaire à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces artistes et de ces poètes ont adhéré à la Révolution d'Octobre. Parce que leur grand projet, n'est-ce pas, leur grand objectif, c'était de créer véritablement un homme nouveau grâce au développement, à l'épanouissement de ses facultés créatrices. Le grand slogan du constructivisme dont je me suis occupé, c'était « l'art comme construction de la vie ». Et donc, ils ont cru que la Révolution d'Octobre, en supprimant toutes les bases sociales et économiques héritées du passé, pouvait permettre cette émancipation, pouvait permettre cette libération et cette création d'un monde nouveau, d'un homme nouveau. D'un homme nouveau et d'un monde nouveau. Et puis, ils se sont trompés parce qu'ils ont été utilisés par le pouvoir bolchevique qui, au fond, à part quelques-uns, Lénine lui-même ne croyait pas du tout à cette avant-garde. Il était resté extrêmement traditionnaliste dans sa vision de l'art. Bon, on connaît sa prédilection pour la sonate Appassionata de Beethoven. C'est très bien. C'était un homme cultivé. Ce que beaucoup aujourd'hui pourraient lui envier. Hein. Beaucoup de nos dirigeants pourraient lui envier.
C'est clair.
Les bolcheviques, ça, je ne dirais pas sur ce plan. Ils étaient beaucoup plus cultivés. Ils avaient beaucoup plus de respect pour l'art, pour la culture, pour la littérature, enfin, pour la culture en général, que ceux qui leur ont succédé, n'est-ce pas? Si vous comparez, je ne sais pas, Lénine et Eltsine, il n'y a pas... En revanche, aujourd'hui, il faut reconnaître, on le lui reproche, mais Vladimir Poutine est quelqu'un qui lit, qui pense, qui étudie les philosophes, et alors, évidemment, c'est aussi portée à son encontre, parce qu'on dit, ah mais oui, mais ce sont des philosophes réactionnaires, donc voilà l'essence du régime. Vous voyez, tout de suite, on travestit. Mais je pense effectivement que l'avant-garde, elle a joué un rôle émancipateur, mais en même temps, elle a posé les bases aussi.
Enfin, elle a été très vite, quand Staline est arrivé, il l'a écartée, quoi. Un peu trop dangereuse pour lui.
Et elle est restée, une proie des collectionneurs.
Pascal Essérick.
Oui, c'était juste un petit clin d'œil. Vous faites référence au livre de Dans la tête de Vladimir Poutine de Ilyachnov.
Michel Elchaïno, je le connais très bien.
Oui. Qui effectivement a essayé de regarder quelles étaient les philosophes, les lectures de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre?
Je pense que c'est un propos biaisé, comme en général tous les propos qui sont mus par le désir de stigmatisation. Même si là, il est plus habile et plus délicat que dans d'autres cas. Mais cette approche, elle avait été précédée par celle d'un autre grand slavisant qui s'appelait Timothy Snyder, celui qui a écrit Terre de sang, vous savez, qui dans Le Monde, enfin ça avait été traduit, c'était je crois au New York Times, il avait écrit un grand article pour montrer que l'idéologie russe donc de actuelle de Poutine était inspirée par des philosophes réactionnaires, nationalistes, comme par exemple Iline, Léontiev, etc. Mais c'est une vision, vous comprenez, s'il avait véritablement cherché la vérité, il aurait pu en faire état, et d'une certaine façon, au moins, il montre que ce président est un président qui lit et qui réfléchit, même s'il s'en sert comme un argument pour le à nouveau de stigmatisation, n'est-ce pas? Mais en même temps, je crois que c'est un sujet qui mériterait une autre approche, n'est-ce pas? Qui d'abord qui amènerait à s'interroger sur la portée du message de ces philosophes réactionnaires du passé par rapport à notre présent. Je citerai par exemple l'un de ces philosophes qui sont maintenant conspués par nos démocrates, c'est Léontiev, qui était effectivement un grand philosophe réactionnaire, religieux, et il est mort à Opnimapoustine, il est entré dans les ordres, et il avait écrit un essai, qui est un peu au fond une forme de pamphlet, qu'on a traduit à l'âge d'homme, et qui s'appelle « L'Européen moyen, outil de la désagrégation universelle ». L'Européen moyen, outil de la décomposition ou de la désagrégation universelle. Et d'une certaine façon, c'était presque prophétique quand on regarde l'état du monde aujourd'hui.
Gérard Cogniot, donc on vous reçoit pour Théologie de la provocation. Il nous reste une poignée de minutes. Votre livre est dédié à la mémoire de Vladimir Dmitrievitch. On va peut-être être quelques minutes.
Quelques minutes pour évoquer
sur ce
Vladimir
grand homme qui a été le patron et le créateur des éditions de l'Âge d'Homme.
Alors vous l'avez bien connu.
J'ai bien connu Vladimir Dmitrievitch quand j'ai fait connaissance à travers justement des écrits que j'ai traduits et qu'il a publiés. Et j'ai collaboré avec lui pendant 40 ans. Je vous dis depuis de 1972 jusqu'à sa mort aux éditions de l'Âge d'Homme où on co-dirigeait la collection Slavica. C'était un homme d'une culture extraordinaire, un très grand éditeur et qui n'avait pas de hier. Qui pouvait discuter contrairement, là aussi, il a été très stigmatisé au moment de la guerre de Yougoslavie, parce qu'on l'a accusé d'avoir pris le parti des Serbes. Il disait, on m'accuse d'être pro-serbe, mais je suis serbe.
Oui.
Bon, donc, pas être.
Enfin, donc, c'était une époque où on pouvait dire n'importe quoi là-dessus.
Ouais, c'est ça.
Les accusations
étaient
graves.
Et donc, évidemment, sa mort reste pour moi une très très grande perte. Il laisse un catalogue de 4000 titres d'ouvrages du monde entier, mais toujours d'une extrême qualité. C'est un éditeur qui n'a jamais fait de compromis. Jamais. Il ne s'est préoccupé à jamais de savoir si un livre pouvait avoir du succès, pouvait avoir des ventes, pouvait avoir, comme on dit aujourd'hui, de l'audimat ou je sais pas quoi, ou de, voyez, être un best-seller. Parfois, cela arrivait, c'était par hasard. Mais il pouvait publier un livre qui n'aurait eu que de lecteurs. s'il estimait que ce livre était important et qu'il devait exister. Et c'est comme ça qu'il a publié la plupart de mes livres, sur des courants, comme vous avez dit, de l'avant-garde, qui étaient ignorés encore à cette époque. Je dois dire que j'ai introduit, j'ai été le premier à écrire sur le constructivisme, sur beaucoup d'autres mouvements de l'avant-garde, et jusqu'à présent, on fait appel à moi quand on traite ces sujets, mais qui restent toujours très confidentiels et très limités à un petit cercle d'amateurs. Mais donc, c'était vraiment un très, très grand éditeur. Tout ce que j'en peux espérer, c'est que ce qu'il a laissé, enfin, ce catalogue subsiste et puisse être encore mis à la portée des lecteurs.
Pascal Essérick.
Vous l'avez rencontré en 72, c'est
72.
Ça? C'était, à quel propos? Enfin, comment
écoutez,
ça, comment
c'est la une rencontre, c'est une histoire aussi un peu romanesque. J'avais en Pologne, j'avais ramené un tapuscrit qui était considéré comme perdu, qui s'appelait Les âmes mal lavées, d'un auteur qui s'appelait Witkiewicz, dont Dmitrievitch avait fait le patron de l'âge d'homme. Il avait une vénération pour cet écrivain. Et donc, quand il a su que je possédais ce texte, il m'a demandé de le traduire, et cela est à l'origine de ma collaboration avec l'âge d'homme, et donc je suis rentré à l'âge d'accord. d'homme par Witkiewicz, qui a toujours été entre nous aussi, disons, un peu un signe de ralliement.
Et vous avez traduit combien de livres à l'âge d'homme?
Oh, je sais pas, peut-être une trentaine, je n'ai pas le chiffre.
Mais la littérature polonaise?
Polonaise, russe.
Russe?
Oui, russe. J'ai toujours beaucoup traduit. En ce moment, je traduis un roman de Leskov qui s'appelle À couteau tiré, qui est un roman qui porte sur le nihilisme russe, que l'on a comparé au démon de Dostoïevski, et qui est très actuel, parce qu'on croirait qu'il vient d'être écrit. Tout ce qu'il décrit, ce milieu nihiliste qu'il décrit à cette époque, il ressemble tellement au nihilisme que l'on connaît aujourd'hui, et que Onfray avait, dont Onfray a parlé dans ses émissions, et c'est par ses émissions que nous nous sommes un peu rapprochés. Donc il y a beaucoup de recoupements à faire, vous voyez.
Et donc aujourd'hui, vous êtes associé plus avec les éditions des Sirtes.
Oui, oui, oui.
Et donc j'imagine que tout votre travail et vous poursuivez ce travail de traduction pour les éditions des Sirtes.
C'est cela.
Il y a une collection particulière?
Non, ils n'ont pas. Alors, à l'âge d'homme, il y avait des collections. Là, il n'y a pas pour l'instant de collection. Serge de Palen m'a suggéré de prendre la direction d'une collection analogue à celle que je dirigeais à l'âge d'homme, qui était la collection Slavica, puisque finalement elle n'existe plus à l'âge d'homme. Donc le projet des Sirtes, c'est de continuer le travail de l'âge d'homme dans le même esprit, pour servir la littérature russe, l'histoire russe, et souvent des idées qui sont très peu conformes à l'opinion dominante.
Ben oui. est-ce que vous pouvez nous parler des éditions des Sirtes?
Les éditions des Sirtes ont été fondées par Serge de Palen, qui est issu d'une grande famille aristocratique et qui a la passion, donc passion du livre et passion de, comme je dis, surtout de la Russie, et qui donc a créé cette maison pour faire mieux connaître l'histoire russe, la littérature russe. Là, on a publié les œuvres quasi complètes de Svetaïeva en bilingue. On a publié un livre de Rozanov qui est un peu mon compagnon dans ce traité, qui s'appelle Les dernières feuilles, que j'ai présenté lors du prix russophonie que l'on donne à des traductions du russe en français récemment à la mairie du 5e, donc qui vient de sortir. Donc on sort des livres, si vous voulez, que d'autres éditeurs ne publieraient pas parce qu'ils ne voudraient pas s'exposer à des pertes.
D'accord. En tout cas, on vous remercie.
Merci Gérard Cognot. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le titre de votre livre, Théologie de la provocation, cause et enjeu du principe totalitaire, avec une préface de Michel Onfray aux éditions des Sirtes. Et autrement, vous pourrez retrouver quelques extraits de ce livre dans le dernier numéro d'Éléments, le numéro 158, sur le dossier L'avenir n'est écrit nulle part. Voilà, nous on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission, bien sûr, de la Vieille Europe. Bonne soirée.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick Péel, assisté de Pascal Essérick. Émission préenregistrée le 24 février 2016, diffusée mardi 1er mars de 21h30 à 23h. Elle est rediffusée jeudi 3 mars de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.